Chapitre 5. Du véritable objet de l'institution des cérémonies religieuses. De la croyance au récit historique. Sous quel rapport elle est nécessaire et à quelle sorte de personnes. Nous avons montré dans le chapitre précédent que la loi divine, cette loi qui nous rend vraiment heureux et nous enseigne la vie véritable, est commune à tous les hommes. Et comme nous l'avons déduite de la seule considération de la nature humaine, il faut reconnaître qu'elle est innée et comme gravée au fond de notre âme. Or, les cérémonies religieuses, celles du moins que nous trouvons dans l'Ancien Testament, ayant été instituées en vue des seuls Hébreux, et si particulièrement appropriées aux intérêts de leur empire que la plupart d'entre elles ne pouvaient être célébrées par les particuliers, mais seulement par toutes les nations réunies, il s'ensuit qu'elles n'ont rien à voir avec la loi divine, et ne peuvent servir de rien, ni pour la vertu, ni pour le bonheur. Elles regardent donc exclusivement l'élection des Hébreux, c'est-à-dire, ainsi que nous l'avons montré au chapitre 3, leur bien-être matériel et temporel, et la tranquillité de leur empire, et par conséquent, elles n'ont pu avoir d'usage qu'autant que cet empire était debout. On demandera maintenant pourquoi, dans l'Ancien Testament, les cérémonies sont rattachées à la loi divine. C'est qu'elles étaient fondées sur la révélation, ou du moins sur des bases que la révélation avait posées. Au surplus, comme une bonne raison, si solide qu'elle puisse être, n'a jamais grand effet sur les théologiens, je vais m'attacher à confirmer ici, par l'autorité de l'Écriture, ce que j'ai établi ailleurs d'une autre façon. Et pour répandre encore plus de clarté sur cette matière, j'expliquerai en quel sens et comment les cérémonies servirent à l'établissement et à la conservation de l'Empire hébreu. S'il y a un point clairement établi dans Isaïe, c'est que la loi divine, prise en elle-même, ne consiste point dans des cérémonies, mais dans cette loi universelle qui nous ordonne de bien vivre. Au chapitre 1er, verset 10, le prophète invite son peuple à apprendre de lui la voie divine, et après en avoir exclu toute espèce de sacrifice et de fête, il la leur découvre enfin, versets 16-17, et la fait consister tout entière dans la purification de l'âme, dans la pratique de la vertu et l'habitude des bonnes actions, enfin dans la charité pour les misérables. Le témoignage du psalmiste n'est pas moins formel quand il dit en parlant à Dieu, psaume 40, versets 7-9, « Vous n'avez voulu ni sacrifice ni présent, vous m'avez ouvert les oreilles, mais vous n'avez demandé ni holocauste, ni oblation pour le péché. Et moi, mon Dieu, j'ai voulu me conformer à votre volonté, car votre loi est dans mes entrailles. » Ainsi donc, le psalmiste n'entend par la loi de Dieu que celle qui est gravée au fond de nos entrailles. Et il en exclut les cérémonies parce qu'elles ne tirent point leur bonté d'elles-mêmes, mais seulement du fait de leur institution. Et non pas par conséquent le caractère d'une loi primitive. Je pourrais citer un grand nombre de passages de l'Écriture pour confirmer cette doctrine, mais les deux qui précèdent suffisent à mon objet. Je puis également établir par l'Écriture sainte que les cérémonies ne sont d'aucun usage pour la vraie béatitude et ne regardent qu'à la prospérité temporelle de l'Empire. L'Écriture, en effet, ne promet pour prix de l'exacte observation des cérémonies que les avantages et les plaisirs tout corporels. La loi divine seule, la loi universelle donne la béatitude. Qu'on parcourt les cinq livres, communément appelés « livres de Moïse », on y trouvera d'autres récompenses promises que la félicité temporelle, les honneurs, la renommée, la victoire, les richesses, les plaisirs, la santé. Je sais que ces cinq livres contiennent, outre les cérémonies, plusieurs préceptes de morale, mais aucun de ces préceptes n'a le caractère d'une prescription universelle. Ce sont des règles de conduite mises à la portée des Hébreux, et particulièrement appropriées à leur génie, qui n'ont par conséquent rapport qu'à la prospérité de l'Empire. Par exemple, ce n'est point à titre de docteur ni de prophète que Moïse ordonne aux Juifs de ne point tuer, de ne point voler. C'est à titre de législateur et de souverain. En effet, il ne se fonde point sur la raison pour imposer de tels commandements, mais bien sur les peines attachées à la désobéissance. Or, ces peines peuvent et doivent même varier suivant le génie de chaque peuple, comme l'expérience nous l'enseigne très clairement. Pour prendre un cas particulier, je dis que Moïse, en défendant l'adultère, n'avait en vue que l'intérêt de l'État. Car s'il avait voulu imposer une prescription morale qui n'eût pas seulement rapport à l'intérêt de l'État, mais aussi à la tranquillité et à la vraie béatitude des âmes, alors, au lieu de condamner seulement l'action extérieure, il aurait condamné en même temps le consentement intérieur de l'âme, comme fit plus tard Jésus-Christ qui n'enseigna autre chose que des principes universels de morale. Voyez Matthieu chapitre 5, verset 23, et promis à ses élus un prix spirituel bien différent des récompenses toutes corporelles de Moïse. Jésus-Christ, je le répète, eut pour mission, non pas de conserver tel ou tel empire ou d'instituer des lois, mais seulement d'enseigner aux hommes la loi morale, la loi universelle. Et c'est dans ce sens qu'il n'abrogea pas la loi de Moïse, car il ne chercha point à introduire dans l'État des lois nouvelles. Tout au contraire, il n'eut rien tant à cœur que d'enseigner la morale et de la distinguer des lois de l'État. Or, s'il agissait de la sorte, c'était surtout à cause de l'ignorance des pharisiens qui étaient persuadés que la vraie béatitude, la perfection, c'était de défendre les droits de l'État, c'est-à-dire la loi de Moïse qui, nous l'avons vu, ne concernait que l'État et avait moins servi à éclairer les Hébreux qu'à les soumettre par la force. Mais je reviens à mon sujet et je m'empresse de citer de nouveaux passages de l'Écriture où elle ne promet pour l'observation exacte des cérémonies d'autres récompenses que les avantages corporels et réserve la béatitude à ceux qui pratiquent la loi divine. Entre les prophètes, aucun n'est plus formel sur ce point qu'Isaïe. Au chapitre 58, après avoir flétri l'hypocrisie, il recommande la liberté et la charité. Or voici les récompenses qu'il promet aux justes, verset 8. Alors votre lumière éclatera comme l'aurore, et votre santé refleurira soudain, votre justice marchera devant vous, et la gloire de Dieu vous réunira. Isaïe recommande ensuite le sabbat, et pour prix du zèle qu'on mettra à l'observer, voici ce qu'il promet. Ibil, verset 14. Alors, vous vous réjouirez avec le Seigneur. Je vous ferai monter à cheval sur les lieux les plus élevés de la terre, et je vous donnerai pour nourriture l'héritage de Jacob, votre père, suivant la parole sortie de la bouche de Jéhovah. Il résulte du rapprochement de ces passages d'Isaïe que, pour prix d'une vie libre et charitable, il promet dans ce monde la santé de l'âme et du corps, et dans l'autre la gloire de Dieu. Tandis qu'il ne propose d'autres récompenses pour l'exactitude aux cérémonies que la sécurité et la prospérité de l'État et la félicité corporelle. Dans les psaumes 15 et 24, pourquoi n'est-il fait aucune mention des cérémonies? Pourquoi n'y trouve-t-on que des prescriptions morales? C'est qu'il ne s'agit là que de la béatitude, bien qu'elle soit annoncée sous la forme de paraboles. La montagne de Dieu, en effet, les tentes qui y sont dressées et le séjour qu'on y promet, tout cela, il ne faut pas en douter, figure la béatitude de la tranquillité de l'âme et ne peut indiquer en aucune façon ni la montagne de Jérusalem, ni le tabernacle de Moïse. Ces deux lieux n'étant habités par personne et les Lévites seuls ayant le privilège de les administrer. Il faut entendre dans le même sens toutes ces sentences de Salomon que j'ai citées dans les chapitres qui précèdent et qui ne promettent la vraie béatitude qu'à ceux qui cultivent la sagesse. Comprendre en effet la crainte de Dieu et trouver la science de Dieu. Qu'est-ce autre chose que la béatitude? Pour prouver maintenant que les Hébreux ne sont plus tenus, après la description de leur empire, à pratiquer les cérémonies, il me suffira de citer ce passage de Jérémie où, prédisant la prochaine destruction de Jérusalem, il s'exprime en ces termes. Dieu n'accorde son amour qu'à ceux qui savent et qui comprennent que c'est lui qui exerce dans ce monde la miséricorde et la justice. Et nul ne sera digne de louange à l'avenir s'il ignore ces choses. Voyez chapitre 9, verset 23. Ce qui revient à dire qu'après la destruction de Jérusalem, Dieu n'exige plus des Juifs aucun culte particulier et leur demande que de pratiquer la loi naturelle imposée à tous les humains. Le Nouveau Testament confirme pleinement cette interprétation et il ne contient que des préceptes de morale et la promesse du royaume céleste pour quiconque s'y conformera. Quant aux cérémonies, aussitôt que l'évangile commença à être prêché parmi les nations dont l'état politique n'était pas celui des Juifs, les apôtres y renoncèrent. Et si les pharisiens, après la chute de l'Empire, continuèrent à les célébrer, au moins en partie, ce fut moins pour plaire à Dieu que pour faire acte d'opposition contre les chrétiens. Voyez en effet ce qui arriva après la première destruction de Jérusalem lors de la captivité de Babylone. Les Juifs, n'étant pas alors que je sache divisés en plusieurs sectes, négligèrent à continent les cérémonies. Bien plus, ils dirent adieu à toute la loi de Moïse, et laissant tomber dans l'oubli de la législation de leur patrie comme entièrement superflue, ils commencèrent à se mêler avec le reste des nations. Tout cela résulte clairement des livres d'Esdras et de Néhémias. Il faut donc conclure que les Juifs ne sont pas plus tenus d'obéir à la loi de Moïse après la dissolution de leur empire qu'ils ne l'étaient avant son établissement. Nous voyons en effet qu'avant la sortie d'Égypte, tandis qu'ils vivaient au sein des nations étrangères, ils n'avaient aucune législation qui leur fût propre et ne se soumettaient à aucun autre droit qu'au droit naturel et aussi sans doute au droit de l'empire où ils vivaient en tant qu'ils n'étaient pas contraires au droit naturel. Les patriarches, il est vrai, ont offert à Dieu des sacrifices, mais ça a été uniquement pour s'exciter davantage à la dévotion accoutumés qu'ils étaient au sacrifice depuis leur enfance. On sait en effet qu'à partir du temps des noces, les hommes avaient pris l'habitude d'offrir les sacrifices comme un moyen d'entretenir dans leur âme des sentiments de piété. Si donc les patriarches ont fait comme tout le monde, ce n'est point en vertu d'un ordre particulier de Dieu, mais par l'inspiration de cette loi divine qui est commune à tous les hommes, et pour se conformer aux habitudes religieuses du temps. Et s'ils ont obéi, en agissant de la sorte, à quelque pouvoir, ce ne peut être qu'au pouvoir de l'État où ils vivaient et dont ils subissaient les lois, comme nous l'avons déjà remarqué au chapitre 3, à propos de Melchisédek. Je crois que les réflexions et les citations qui précèdent confirment suffisamment ma doctrine par l'autorité de l'Écriture. Il me reste à expliquer comment et sous quel rapport les cérémonies religieuses ont servi à l'établissement et à la conservation de l'Empire hébreu. C'est ce que je vais faire le plus brièvement possible et en m'appuyant sur les principes les plus généraux. La société n'est pas seulement utile aux hommes pour la sécurité de la vie, elle a pour eux beaucoup d'autres avantages. Elle leur est nécessaire à beaucoup d'autres titres. Car si les hommes ne se prêtaient mutuellement secours, l'art et le temps leur manqueraient à la fois pour sustenter et conserver leur existence. Tous, en effet, ne sont pas également propres à toute chose, et aucun homme n'est capable de suffire à tous les besoins auxquels un seul homme est asservi. La force et le temps manqueraient donc, je le répète, à chaque individu, s'il était seul, pour labourer la terre, pour semer le blé, le moissonner, le moudre, le cuir, pour tisser son vêtement, fabriquer sa chaussure, sans parler d'une foule d'art et de science essentiellement nécessaires à la perfection et au bonheur de la nature humaine. Aussi, voyons-nous les hommes qui vivent dans la barbarie traîner une existence misérable et presque brutale. Et encore, le peu de ressources dont ils disposent, si grossières qu'elles soient, ne les auraient pas s'ils ne se prêtaient pas mutuellement le secours de leur industrie. Maintenant, il est clair que si les hommes avaient été ainsi organisés par la nature que leurs désirs fussent toujours réglés par la raison, la société n'aurait pas besoin de loi. Il suffirait d'enseigner aux hommes les vrais préceptes de la morale pour qu'ils fissent spontanément, sans contrainte et sans effort, tout ce qu'il serait véritablement utile de faire. Mais la nature humaine n'est pas ainsi constituée. Chacun, sans doute, cherche son intérêt, mais ce n'est point la raison qui règle nos désirs. Ce n'est point elle qui prononce sur l'utilité des choses. C'est le plus souvent la passion et les affections aveugles de l'âme, lesquelles nous attachent au présent et à leur objet propre, sans souci des autres objets de l'avenir. Que résulte-t-il de là? Qu'aucune société ne peut subsister sans une autorité, sans une force et par conséquent sans des lois qui gouvernent et contiennent l'emportement effréné des passions humaines. Toutefois, la nature humaine ne se laisse pas entièrement contraindre, comme dit Sénèque le Tragique. Il n'est donné à personne de faire durer un gouvernement violent, et la modération seule donne la stabilité. En effet, qui n'agit que par crainte, ne fait rien que contre son gré, et sans plus songer si ce qu'on lui commande est utile ou nécessaire. Il ne cherche qu'à sauver sa tête et à échapper au supplice dont il est menacé. J'ajoute qu'il est impossible au sujet en pareil cas de ne pas se réjouir du mal qui arrive au maître, bien que ce mal rejaillisse sur eux-mêmes, de ne pas lui céder toutes sortes d'infortunes, de ne pas lui en causer enfin dès qu'ils le peuvent. Aussi que rien ne nous est plus insupportable que d'être asservi à nos semblables et de vivre sous leurs lois. Je remarque enfin que la liberté, une fois donnée aux hommes, il est extrêmement difficile de la leur reprendre. Voici maintenant la conclusion où j'en veux venir. Premièrement, le pouvoir doit être autant que possible entre les mains de la société tout entière, pour que chacun n'obéisse qu'à soi-même et non à son égal. Ou si l'on donne le pouvoir à un petit nombre, ou même à un seul, ce dépositaire unique de l'autorité doit avoir en lui quelque chose qui l'élève au-dessus de la nature humaine, ou du moins, il doit s'efforcer de le faire croire au vulgaire. En second lieu, les lois doivent être dans un état quelconque, instituées de telle sorte que les hommes y soient contenus moins par la crainte du châtiment que par l'espérance des biens qu'ils désirent avec le plus d'ardeur. Car de cette façon, le devoir est pour chacun d'accord avec ses désirs. Enfin, puisque l'obéissance consiste à se conformer à un certain ordre en vertu du seul pouvoir de celui qui le donne, il s'ensuit que dans une société où le pouvoir est entre les mains de tous et où les lois se font du consentement de tout le monde, personne n'est sujet à l'obéissance, et soit que la rigueur des lois augmente ou diminue, le peuple est toujours également libre, puisqu'il agit de son propre gré, et non par la crainte d'une autorité étrangère. C'est justement le contraire qui arrive dans un gouvernement absolu. Tous les citoyens y agissent en effet par l'autorité d'un seul, et s'ils n'ont pas pris dès l'enfance l'habitude de cette dépendance, il sera difficile au souverain d'introduire de nouvelles lois et de reprendre au peuple la part de liberté qui lui aura une fois accordée.